Il est 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI matin.
Le journal international avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une, il menace de frapper des ponts et des centrales électriques en Iran. Le ton à nouveau très martial et menaçant de Donald Trump ce matin. Alors que l'Iran dit à nouveau ne pas vouloir se rendre, la riposte iranienne s'est poursuivie hier et aujourd'hui dans le Golfe et en Israël. On s'interroge sur la stratégie militaire américaine et ses limites. Dans un instant, coup de projecteur également sur la répression qui s'intensifie en interne en Iran. Comment se protéger face à des hackers toujours plus rapides et rusés? La question de notre dossier du jour aujourd'hui, l'Europe, vous l'entendrez, qui a pris du retard en la matière et reste très dépendante des États-Unis. Dans ce journal également, le rapprochement de plus en plus visible entre la Russie et le nouveau régime du colonel Rangjanirine à Madagascar, des livraisons de matériel militaire mercredi et une nouvelle émission sur la radio nationale malgache pour vanter la coopération avec Moscou. Enfin, un témoignage, alors qu'au mois de mars, deux Mexicains sont morts à quelques jours d'intervalle dans les prisons pour migrants aux États-Unis. Un rescapé de ces centres de détention nous raconte son calvaire.
Savent ce qui doit être fait et ce doit être fait rapidement.
Un avertissement de plus de Donald Trump aux autorités iraniennes, alors que le président américain s'est félicité hier de la destruction d'un pont près de Téhéran qui a fait 8 morts civiles, selon un responsable local, le président américain qui menace à nouveau ce matin de s'en prendre à d'autres ponts et aux centrales électriques du pays. L'armée américaine n'a même pas commencé à détruire ce qu'il reste, affirme-t-il sur ses réseaux sociaux. Un ton très va-t-en-guerre donc de Donald Trump qui menace la nuit dernière de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Il a vanté les succès sans précédent de son armée, mais Franck Alexandre, sa stratégie militaire semble rencontrer certaines limites.
Selon le commandement central américain, 12 300 cibles ont été visées en Iran. Nous y sommes presque, a indiqué mercredi soir Donald Trump, mais pour autant, l'Iran ne s'est pas effondré. Dans la dernière phase de cette guerre menée à tâtons, les États-Unis envisagent des opérations terrestres. 50 000 soldats sont présents dans le Golfe, mais cette option est très aléatoire, pointe Eli Tenenbaum, directeur de recherche à l'IFRI.
Les effectifs déployés pourraient permettre éventuellement une prise d'assaut d'une petite île. On pense évidemment à l'île de Kharg ou à celle de Keshm. On pourrait imaginer une tête de pont qui serait de toute façon extrêmement dure à tenir avec une situation tactique précaire qui en résulterait. L'idée de s'engager dans une guerre terrestre avec forcément des pertes est peu attractive. L'opération n'a jamais été pensé comme une invasion terrestre et transformer une campagne pensée comme exclusivement aérienne en une campagne aéroterrestre, en général, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas.
La question des stocks de munitions se pose également. Plus de 800 missiles Tomahawk ont déjà été tirés et il faudra des années pour reconstituer les stocks de ses armes de précision.
Franck Alexandre et l'armée américaine semble-t-il touchés ce matin dans le ciel de l'Iran. Téhéran affirme avoir abattu un avion de chasse F-35 au-dessus du centre du pays. Ce serait la deuxième fois depuis le début de la guerre.
Et l'Iran qui continue aussi de riposter aux frappes sur son sol avec des tirs dans toute la région.
Une raffinerie en feu après une attaque de drone au Koweït ce matin. Le sol israélien également ciblé par des missiles iraniens. Le chef de la diplomatie iranienne affirme une nouvelle fois que son pays n'a pas l'intention de se rendre. Et le régime continue aussi d'intensifier sa répression en interne. Un jeune manifestant emprisonné lors du soulèvement de janvier a été pendu hier. Et l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, a été arrêtée. Oriane Verdier.
Nasrin Sotoudeh était assignée à résidence pour des raisons de santé. C'est parce qu'elle continuait, malgré les dangers, à se mobiliser pour les droits des Iraniens qu'elle a été arrêtée, estime son avocat en France, Irbot Deghani-Azar.
Il y a quelques jours, elle avait attiré l'attention sur les exécutions en Iran et la situation des prisonniers. Donc je crains que ce soit l'objet de son arrestation.
Autre figure de la lutte pour les droits de l'homme en Iran, Narges Mohammadi est incarcérée dans une prison du nord du pays. Sa famille affirme qu'elle a subi un infarctus non traité et qu'elle se voit refuser des soins médicaux spécialisés. Les frappes aériennes en cours à proximité de la prison mettent sa vie et celle des autres détenus encore davantage en danger. Aujourd'hui, il est urgent que la communauté internationale et l'opinion publique se réhumanisent, estime Irbot Deghani-Azar.
J'espère encore qu'on va pouvoir mettre la lumière sur l'ensemble des prisonniers qui sont aujourd'hui dans les prisons iraniennes pour que cette tuerie s'arrête. Et puis surtout, j'espère que et la communauté internationale va se mobiliser. Faire semblant de pas voir, c'est perdre une part de notre propre humanité.
Ce jeudi, le régime iranien a annoncé l'exécution d'Amir Hossein Hatami, arrêté lors des manifestations de janvier dernier. Une nouvelle preuve de l'utilisation de la peine de mort comme outil de répression politique dans l'ombre de la guerre.
Alors Yann Verdier, l'Iran qui met aussi en garde ce matin le Conseil de sécurité de l'ONU contre toute action provocatrice, alors qu'un vote prévu aujourd'hui a été reporté, un projet de résolution porté par Bahreïn et les Émirats qui propose d'autoriser l'usage de la force pour débloquer le détroit d'Ormuz. Une quarantaine de pays ont appelé hier à sa réouverture immédiate et inconditionnelle en évoquant de possibles nouvelles sanctions contre l'Iran, accusé de vouloir prendre en otage l'économie mondiale.
La guerre au Moyen-Orient qui se joue aussi en ligne.
Avec depuis un peu plus d'un mois des attaques de hackers iraniens contre Israël et les États-Unis, un signe supplémentaire de la menace grandissante que représente la cybercriminalité aujourd'hui, qu'elle soit liée ou non à un conflit. En Europe, par exemple, les vols de données ont augmenté de 51% en 2025. Des informations comme les noms, les adresses, les coordonnées bancaires revendues ou utilisées pour faire du chantage. Il n'est pas rare également désormais que des entreprises ou des collectivités voient leur réseau entièrement bloqué jusqu'au versement d'une rançon. Elles n'ont donc plus d'autre choix que de se protéger. Et c'est notre dossier du jour. Bonjour Clotilde Hazard.
Bonjour.
Vous étiez cette semaine à Lille au Salon international de la cyberdéfense. Une question pour commencer. Face à cette explosion, est-ce que les entreprises arrivent à suivre ?
C'est difficile car les hackers repèrent les failles des logiciels de plus en plus vite. La start-up Nucleon Security mise sur l'intelligence artificielle pour détecter et bloquer les attaques automatiquement en amont. Selon Anas Chana, son fondateur, il faut investir constamment dans la recherche et le développement pour rester dans la course.
L'attaque classique par mail, c'est simple, c'est connu, etc. Aujourd'hui, on est en train de regarder les attaques qui peuvent être générées par des agents IA. Les attaquants, eux aussi, réfléchissent à des manières pour outrepasser les mécanismes de sécurité qu'on est en train de mettre en place. Ils utilisent aussi l'IA pour générer des logiciels malveillants, pour générer des nouvelles attaques, pour générer des mails frauduleux, etc. Donc nous aussi, on doit anticiper leur attaque dans 2, 5, 10 ans.
On l'entend, c'est donc une course contre la montre que l'Europe est en train de perdre.
Les idées et les talents sont là, mais beaucoup sont rachetés par les États-Unis. Pour tenter de combler le retard, l'Union européenne a prévu plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur 3 ans dans les technologies numériques stratégiques. Un vrai progrès, mais pas suffisant, selon François de Ruti, directeur des opérations chez Sequoia.io.
Il faut que l'Europe, les institutions européennes ou les pays européens croient dans les solutions européennes, et notamment les institutions publiques qui sont généralement le fer de lance de ça ou qui sont censées s'équiper en premier pour montrer l'exemple. Je ne parle pas de protection économique, on ne doit pas obliger des gens à acheter des solutions européennes, ça n'a aucun sens. Par contre, s'assurer que quand on fait un projet d'appel d'offres ou de choses comme ça, qu'il y ait au moins une solution européenne qui soit considérée et testée, ça pourrait être obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Clotilde, il y a aussi une dépendance aux États-Unis qui gère le stockage de nos données.
Oui, la majorité des centres où sont stockés les données, les data centers, sont gérés par des entreprises américaines, des géants comme Google, Microsoft ou Amazon. Pour garder une forme d'indépendance, des entreprises proposent de chiffrer les données. Thales est un des leaders mondiaux en la matière. On écoute Philippe Vallée, son vice-président exécutif.
Thales travaille sur des solutions qui permettent à nos clients de travailler avec des fournisseurs de cloud, même s'ils sont américains, en faisant de telle sorte que les données qui sont sur le cloud sont protégées par des clés et des outils de chiffrement que Thales propose à ses clients. Donc en fait, c'est un jeu à 3 parties. Vous avez le fournisseur de cloud, l'entreprise qui va mettre ses données sur le cloud, et puis Thales qui va en fait aider à la protection des données. En d'autres termes, la clé de chiffrement, c'est l'entreprise qui la contrôle.
Conclusion, beaucoup d'outils, beaucoup d'offres de protection et donc un marché dispersé. Les acteurs manquent encore de coordination pour être compétitifs avec les géants du secteur et parvenir à une réelle indépendance numérique européenne.
Clotilde Hazard, merci beaucoup. Notre dossier du jour à retrouver sur RFI.fr.
À 7h09, en temps universel, lui appelle les Burkinabés à oublier la démocratie.
Elle tue et n'est pas pour nous, a déclaré Ibrahim Traoré dans un long entretien hier à plusieurs chaînes de télé africaine et occidentale. Il affirme sans détour que des élections ne sont pas à l'ordre du jour. Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, qui est aussi revenu dans cette interview sur le cas de son prédécesseur, Paul-Henri Sandaogo Damiba, extradé par le Togo après la dernière tentative de coup d'État. Et puis la situation sécuritaire a également été évoquée. Ibrahim Traoré a notamment affirmé que la Russie fournissait bien des équipements à son armée, mais qu'elle ne forme pas ses soldats.
La Russie qui se rapproche encore un peu plus du nouveau régime à Madagascar.
Les les exemples se multiplient comme ce nouveau taux de matériel.
Yeah. l'écoute de...
Principe Actif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
Ensuite c'est comme un jeu, Amstram, Gram, E égale MC2, appelle-moi Al-Ain. Einstein. L'énergie est cinétique et libre, on ne l'arrête pas. Petit génie aux mille techniques, Nikola Tesla. Pas d'ineptie ni d'inertie, le style relève de l'exploit. Ma directive, je te le direct, dis au micro, on ne me teste pas. Écoute mes théorèmes, mes poèmes, des phonèmes comme on aime sans décorum. C'est des phénomènes hallucinants, sidérales comme le nombre pi. Ma valeur est irrationnelle, mise à l'amende, M6 malhonnête. Contre un mégatonne, trinitro, toluène. Sur son gamma, rimes incendiaires, destructrice, c'est la source de lumière. Je suis venu bousculer toutes les lois établies. Faire éclater le cadre que l'on croyait acquis. L'esprit est limité, mais l'univers s'élargit. Les vieilles formules sont périmées, faut trouver l'alternative. Particules élémentaires, affaires à suivre. Musique des sphères, beauté abstraite, sous vos regards ébahis. Je cherche la quadrature du cercle, la quête est classique. Je ne peux pas rester assis, je suis debout, je vais y passer la nuit. Reprenons les choses à la base. Je sais compter, oui, ça fait 1, 2, 3. Ensuite, c'est comme un jeu, Amstram, Gram, E égale MC2, appelle-moi Al Einstein. Reprenons les choses à la base. Je sais compter, oui, ça fait 1, 2, 3. Ensuite, c'est comme un jeu, Amstram, Gram, E égale MC2, appelle-moi Al Einstein. Reprenons les choses à la base. Je sais compter, oui, ça fait 1, 2, 3. Ensuite, c'est comme un jeu, Amstram, Gram, E égale MC2, appelle-moi Al Einstein. Hey. Reprenons les choses à la base. Je sais compter, ça fait 1, 2, 3. Ensuite, c'est comme un jeu, Amstram, Gram, E égale MC2, appelle-moi Al Einstein.